Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. On espère que vous avez profité de votre week-end. Bon lundi matin et haut les cœurs. Nous sommes le 21 mars.
Le printemps est arrivé sur ta maison.
Le printemps est arrivé, la belle saison.
On a ressorti le 45 tours de Big Bazaar pour fêter l'arrivée de la belle saison. On espère que vous allez le passer avec nous ce printemps. En tout cas, on vous accompagne jusqu'à 6h30.
Dans l'actualité, ce lundi 21 mars, Julien.
26e jour de guerre en Ukraine, une guerre d'usure à présent avec une armée russe à l'arrêt qui pilonne et bombarde. On va retrouver dans un instant notre envoyé spécial à Kiev, Nicolas Tonev.
Ce conflit fait de nombreuses victimes directes, mais pourrait en faire encore davantage de manière indirecte.
Oui, de l'aveu de tous les spécialistes, cette guerre va provoquer une crise alimentaire mondiale plus mortelle encore que les bombes de Poutine. La raison est simple, l'Ukraine et la Russie représentent à elles seules un tiers du blé de la planète, du blé qui commence à manquer dans de nombreux pays pauvres, principalement en Afrique du Nord. Allons-nous vers un ouragan de famine, comme le prédit le secrétaire général de l'ONU? Comment l'éviter si ce n'est trop tard?
On posera ces questions à l'économiste Bruno Parmentier, spécialiste des questions d'agriculture et d'alimentation. Rendez-vous à 6h10.
Et puis, avant cela, nous allons revenir ce matin sur cette étude de grande ampleur menée sur les jeunes au volant.
Et le constat est inquiétant, les conducteurs âgés entre 18 et 24 ans prennent plus de risques en voiture, en cause, la vitesse, la fatigue, le téléphone portable, l'insouciance et le sentiment de toute puissance.
38 jeunes ont été tués sur les routes en février selon la sécurité routière.
Ouais, des jeunes conducteurs ont-ils conscience des risques auxquels ils s'exposent? Pourquoi? Le risque routier est fondamentalement masculin. Nous serons à 6h moins le quart avec celui qui a piloté cette étude, le sociologue David Le Breton.
Et puis on terminera avec votre partition.
Une bande originale aussi iconique que le film qu'elle illustre. Unrecognizable to myself. Bruce Springsteen avec Streets of Philadelphia pour raconter l'histoire tragique d'un avocat atteint du sida, un avocat incarné par Tom Hanks. Rendez-vous à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme. On commence comme chaque matin avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Après ce week-end très agréable, très ensoleillé en tout cas
pour presque tout le monde
en région Île-de-France, est-ce que la semaine commence bien?
Ah bah la semaine elle commence très bien même.
Sous le soleil exactement.
Ouais, ça commence très très bien. Alors on a une amélioration encore même par rapport à ce week-end sur l'ensemble du pays. Il nous reste encore une zone où la journée ne sera pas franchement très agréable. C'est au bord de la Méditerranée. Voilà, l'humidité persiste là. Dès ce matin, nous avons des pluies abondantes hein, sur le Languedoc-Roussillon. Et puis en plus de la pluie, on a le vent d'Otan qui souffle fort jusqu'à 90 km/h ce matin, jusqu'à 100 km/h cet après-midi.
Rappelez-nous, le vent d'Otan, c'est de l'ouest vers l'est, c'est ça?
Le vent d'Otan, c'est ce vent qui vient de la mer, effectivement, de la Méditerranée, de l'est vers l'ouest, qui rentre dans les terres, c'est celui-ci. Voilà, et la tramontagne, c'est l'inverse. Donc ce vent d'Otan que vous connaissez bien dans le Languedoc-Roussillon, il va souffler fort encore aujourd'hui. Les fortes pluies, c'est pour ce matin, ça va se calmer dans l'après-midi. Et puis sur la Provence, on a un ciel qui reste couvert avec là du vent d'est, forcément, sur les côtes varoises, qui souffle fort aussi. En Auvergne et jusqu'au centre, on a un ciel qui alterne entre nuages et éclaircies. Partout ailleurs, Atlantique, sur toute la façade est du pays et la moitié nord, il fait très beau. Des petites gelées ce matin sur le nord et l'est du pays.
C'est noté, merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Très bon réveil à tous.
Pour les nourrir, on a tué tous les poulets du coin, les lapins aussi, et j'ai trouvé un bulldozer blindé pour eux, car ils creusaient leurs tranchées à la pelle.
Le système D dans les villages ukrainiens, tout est bon pour nourrir civils et soldats après bientôt un mois de guerre. Reportage dans un instant avec notre envoyé spécial. 1h30 de maths hebdomadaire en plus dans le tronc commun au lycée à partir de la rentrée prochaine. C'est ce que préconise une commission d'experts qui rend un rapport sur le sujet aujourd'hui. Encore faut-il qu'il y ait des profs pour assurer les cours, tous les détails à suivre. Et puis, il est connu de tous, petits et grands, Guignol à l'honneur comme d'autres en cette journée mondiale des marionnettes. Nous nous sommes rendus dans la seule école de marionnettistes d'Europe. Rendez-vous en fin de journal à Charleville-Mézières.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de cette matinale vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Plus d'un quart de la population ukrainienne a quitté son foyer depuis le début de la guerre, soit 10 millions de personnes, affirme le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Des civils visés par l'armée russe, comme à Mariupol où une école a été bombardée. Un acte de terreur, dénonce le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui rappelle être prêt à négocier directement avec Vladimir Poutine, de préférence à Jérusalem.
Les troupes troupes russes qui progressent lentement sur la plupart du front.
Oui, en conséquence, le ravitaillement des grandes villes est assuré plutôt correctement, même si certains produits manquent, évidemment. En revanche, dans les campagnes, là où les combats sont tout proches, c'est beaucoup plus compliqué. On se débrouille comme on peut pour trouver de la nourriture à l'ouest de Kiev. Le reportage de notre envoyé spécial Nicolas Tonev.
Énième sonnerie chez Olena, madame la mère de Jean-Yves. Cette fois un fournisseur, une occasion de passer commande.
Si vous avez des conserves de viande, je prends. On manque de viande et puis du pain volontiers aussi.
Un coup de fil miraculeux en lisière de front dans ces maisons de bois vieillottes à 50 km du centre de Kiev. La vie ne tient qu'à force de volonté.
J'ai obligé le seul magasin à ouvrir. Ils avaient peur de venir travailler. Enfin, ce matin, le village a reçu du porc et pour la première fois depuis le début de la guerre, du pain. Pour la première fois depuis le début de la guerre, il y a eu du pain.
Mère de Séraphine, 8 ans, qui reste près d'elle avec son Nestor, mère ou staroste en ukrainien de son village, Olena défie les difficultés et les peurs, même les plus redoutables, qui ont 2 semaines.
Quand l'armée nous a dit qu'il fallait évacuer en urgence, car les Tchétchènes de Kadyrov étaient tout près, j'ai pleuré toute la nuit. Ils n'étaient plus qu'à 4 km, mais les nôtres les ont bombardés terriblement.
Et où sont-ils maintenant, ces hommes de Kadyrov ?
Je pense qu'ils sont au ciel.
700 habitants sur 1000 ont quitté le village.
Hein ? Je vous emmène, les gars connaissent ma voiture et laissent passer. Vous voyez, on a enlevé tous les panneaux indicateurs pour ne pas donner d'informations à l'adversaire.
Les militaires ont sauvé Jornivka, alors Olena les aide avec cette cantine de guerre. Au menu du jour,
soupe de poisson en entrée et ensuite pommes de terre aux champignons.
Une équipe de choc pour répondre à ce quotidien difficile des soldats ukrainiens qu'Olena nous fait découvrir.
Les soldats des alentours sont venus nous voir et ils ont demandé si nous pouvions les aider. On a demandé comment. Ils ont dit avec de la nourriture chaude, car ils n'avaient que des rations froides dans la forêt depuis le début. Pour les nourrir, on a tué tous les poulets du coin, les lapins aussi, et j'ai trouvé un bulldozer blindé pour eux, car ils creusaient leurs tranchées à la pelle.
Le prochain défi de Madame la maire, faire tenir son organisation aussi longtemps que la guerre. À Jornivka, Nicolas Tonev, Europe 1.
Et du côté des sanctions, près de 850 millions d'euros d'avoirs d'oligarques russes ont été immobilisés en France, fait savoir Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il s'agit de yachts, d'appartements ou encore de comptes bancaires.
En Belgique, à présent, au moins 6 morts et 26 blessés à la Louvière.
Une voiture a foncé dans une foule rassemblée pour un carnaval hier matin. La piste terroriste est écartée pour l'instant par les autorités belges. Les analyses sanguines des deux occupants du véhicule doivent être connues aujourd'hui.
La présidence J-20 avant le premier tour, ça approche, hein, et les candidats à fond dans la campagne.
Et oui, c'est notamment le cas de Jean-Luc Mélenchon qui a appelé ses soutiens à se rassembler place de la République à Paris hier pour une union populaire en vue du second tour. Vous avez répondu à l'appel, a lancé le candidat insoumis à ses supporters dont il estime le nombre à 100 000.
À droite, c'est sur un plateau télé que Valérie Pécresse s'est adressée à ses militants.
Sur le plateau du 20h de TF1, la candidate Les Républicains martèle que son programme est le plus abouti, le plus solide et attaque Emmanuel Macron.
Il faut surtout que les Français ne se laissent pas voler cette élection comme ça a été le cas en 2017. Le vrai programme de droite, celui qui remettra de l'ordre dans la rue, celui qui remettra de l'ordre à nos frontières, celui qui revalorisera le travail, qui fera les réformes, qui résoudra les problèmes des déficits, de la dette, du pouvoir d'achat, c'est le mien. Et aujourd'hui, il y a une espèce de confusion parce que il y a la guerre en Ukraine, parce que Emmanuel Macron fuit le débat, parce qu'il se dérobe, parce que son bilan, finalement, c'est son boulet, il ne veut pas l'affronter. Et donc, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment venir projet contre projet, débattre et convaincre.
Et ne manquez pas à 8h13 ce matin l'invité politique de Sonia Mabrouk, l'eurodéputée Les Républicains Nadine Morano.
Les calculs seront-ils bons ? Publication aujourd'hui d'un rapport sur les mathématiques au lycée.
Et depuis la réforme du bac, les maths sont boudées par les élèves. Conséquence, 18% d'heures de cours en moins pour cette matière. Plus d'inégalités entre filles et garçons. Alors que faire ? Pour le savoir, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a mandaté une commission d'experts il y a quelques semaines. Louise Salé, c'est aujourd'hui qu'elle rend son rapport. Quelles sont les préconisations ?
Plus de mathématiques dans le tronc commun au lycée, ce tronc commun étant l'ensemble des matières que tous les élèves doivent suivre, quelle que soit leur spécialité choisie. Comment faire? Eh bien, les experts conseillent d'augmenter les heures du cours appelé enseignement scientifique en première. Ce cours passerait de 2h à 3h30 par semaine, avec un surplus d'heures donc consacré uniquement aux maths. Cet ajustement dans l'emploi du temps pourrait s'appliquer dès la rentrée prochaine. Problème, des candidats au concours de professeurs de mathématiques manquent à l'appel et les inscriptions au CAPES sont déjà closes pour la rentrée prochaine. Les cours seraient donc assurés dès septembre en heures supplémentaires par des enseignants déjà en poste.
Merci Louise Salé.
Et puis nous sommes le 21 mars, c'est le premier jour du printemps, mais c'est aussi la journée mondiale de la marionnette et Guignol est à l'honneur.
Et vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est en France que se trouve la capitale mondiale de ces petites poupées de bois, à Charleville-Mézières très exactement. Et logiquement, c'est aussi là que l'École nationale supérieure des arts de la marionnette s'est installée. 15 élèves admis tous les 3 ans parmi des centaines de dossiers. Un monde, vous l'aurez compris, très exigeant. Le reportage de Guillaume Dominguez.
C'est derrière la façade d'une ancienne usine que se cache cette école hors du commun. Sur les murs, des marionnettes de bois, de chiffon, de plâtre ou de carton qui de temps en temps prennent vie entre les mains des étudiants.
C'est pour les fous, tout à fait, complètement, tout à fait.
Ici, on leur apprend tout sur la marionnette, de sa fabrication à sa mise en scène, précise Barbara Mélois, professeure d'art plastique.
On apprend le jeu d'acteur, la manipulation des marionnettes, la voix, la dramaturgie. On apprend aussi l'histoire du théâtre, l'histoire des arts de la marionnette, l'histoire des arts. C'est la croisée des arts, en fait.
3 ans d'études qui se traduisent par un double cursus, une licence d'art du spectacle et un diplôme d'acteur marionnettiste. De quoi multiplier les débouchés professionnels pour Gwenaëlle, étudiante en première année.
On peut être uniquement à la construction, on peut être à la mise en scène, avoir sa propre compagnie ou travailler pour d'autres compagnies. Il y a vraiment beaucoup de variété dans les possibilités qu'on a à la fin. C'était ça qui m'intéressait aussi pour venir ici.
Le prochain concours d'entrée est prévu pour l'été 2024 et l'école espère bien intégrer un tiers d'étudiants étrangers dans cette nouvelle promotion. Charleville-Mézières, Guillaume Dominguez, Europe 1.
Eh bien, on a loupé notre orientation. Merci beaucoup, Alban Le Prince, pour ce journal.
Il est 5h09 et ce sont les courses de Thierry Léger, le Paris gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Compiègne et mon Paris gagnant sera le 514 Act of Magic. Dans cette course où tous les chevaux seront à vendre ou plus offrants après l'arrivée, il possède de solides arguments pour l'emporter. Sa condition physique est certaine, comme le prouve sa dernière sortie à Cagnes-sur-Mer, qui s'est soldée par une victoire dans une épreuve à réclamer d'un niveau similaire. Et grâce à sa situation des plus favorables cet après-midi sur l'échelle des poids, il s'annonce vraiment bien difficile à battre. Notez bien, pour Compiègne, réunion 1, dans la 5e course, le numéro 14, Act of Magic.
Act of Magic, le numéro 14, merci. Thierry Léger, c'est noté. On vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon lundi matin, retour de votre pressing, les 3 histoires choisies dans la presse pour vous les raconter avec nous. Martin Lange, bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin. Un homme à la une de vos journaux ce matin, ce n'est pas vous Martin, c'est un homme qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes hier, place de la République à Paris. Le printemps, Mélenchon, titre Libération. Mélenchon, le choix c'est moi, ajoute l'Opinion, le journal libéral qui note qu'après avoir creusé l'écart à gauche, le candidat La France Insoumise actionne le levier du vote utile pour tenter d'accéder au second tour. En attendant, les partis sont déjà dans la bataille des législatives. C'est la une du Figaro qui nous raconte que ça s'active en coulisses à 3 semaines du premier tour. Chez les Républicains, on s'inquiète d'une débandade en cas d'échec de Valérie Pécresse. Quand du côté de LREM et du Modem, on a peur de faire les frais d'une recomposition de la majorité autour de récents transfuges venus de la droite et de la gauche. Martin, ce matin, on commence avec vous. Quel article avez-vous sélectionné?
Eh bien, c'est une grande première. Il y aura bien un baiser homosexuel dans le prochain Pixar. C'est le magazine américain Variety qui a révélé l'information. Ça sera dans le film Buzz l'éclair, attendu en salle le 22 juin prochain.
Journal de bord de Buzz l'éclair. Après une année complète coincée sur cette planète, l'heure est venue d'effectuer notre premier vol d'essai. On rentre à la maison.
Bonne chance, commandant.
Alors, une des personnages, elle s'appelle Hawthorne, embrasse sa partenaire, une grande première donc pour un film d'animation. Mais la scène a d'abord été censurée par le studio, hein, suscitant évidemment un tollé parmi les employés. Ils ont même écrit une lettre ouverte à la maison mère de Pixar, Disney. C'était au début du mois. Ils s'indignaient, je cite, hein, que Disney exige de couper presque tous les moments d'affection gay. Des révélations alors que le géant du film d'animation est déjà en pleine tourmente. Quelques jours plus tôt, son PDG avait refusé de s'opposer ouvertement à une loi anti-LGBT votée en Floride, l'État où se situe le siège de la compagnie. Cette loi que ses opposants surnomment « Dansei Gay », hein, »,« Ne parlez pas des gays » en version française, interdit aux professeurs d'aborder les questions de genre et d'identité sexuelle à l'école avant 8 ans. Sauf que la communauté LGBT, elle estime qu'elle pourrait porter préjudice, notamment aux parents homosexuels. Comment l'enseignant pourrait-il évoquer le fait qu'un élève ait par exemple deux papas ou deux mamans ? Bref, les déclarations du PDG, couplées aux révélations de plusieurs médias américains, selon lesquelles Disney aurait financé des élus républicains soutenant la loi, tout ça a engendré une pluie de critiques, hein, des appels au boycott de Disney ont même circulé sur les réseaux. Bob Chapek, le PDG, a repris la parole pour éteindre l'incendie. Il a annoncé un don historique pour les associations LGBT. Il a aussi décroché son téléphone pour appeler le gouverneur de Floride, hein, et lui dire son inquiétude face à cette loi. Et puis surtout, Disney a fait marche arrière sur la scène du baiser. Elle apparaîtra bien à l'écran, mais pas sûr que ça suffise à calmer les détracteurs de Disney. Buzz l'éclair, un bisou lesbien d'abord censuré par Disney, a été rétabli au montage. C'est sur le site de 20 minutes.
Et le film, il sort quand ?
Le 22 juin.
Le 22 juin.
Donc, c'est vous pourrez voir ce premier baiser cet été dans les salles de cinéma.
22 juin, je crois, et le début de l'été, ou pas loin.
C'est le lendemain, c'est le 21 juin, le début de l'été.
Voilà, on est raccord.
C'est presque.
Merci. Martin Omblin, c'est à vous.
Un article ce matin sur les villes françaises, bien embarrassées par leur jumelage avec des villes russes. C'est dans le Parisien, vous avez sans doute remarqué ce panneau à l'entrée de votre ville, entre le nom de la commune et celui qui dit ville fleurie, en général. Si celle-ci est bien
commune
sûr...
commune connectée.
Voilà, ça, c'est vrai. C'est très nouveau, ça, quand même. On voit plein de choses apparaître. Si bien sûr votre ville est jumelée, hein, comme plus de 40 000 d'entre elles en France, Lourdes, par exemple, est mariée à Bethléem. Dans les Vosges, la petite bourgade de Bruyères nous permet de voyager par la pensée jusqu'aux plages d'Honolulu. Ces conventions nées après la Deuxième Guerre mondiale avaient pour volonté de promouvoir la paix et l'amitié entre les peuples. On assistait souvent à des échanges culturels, des rencontres entre des écoliers, des collégiens des deux pays. Et bien aujourd'hui, Pantin, en Seine-Saint-Denis, est bien encombré par le panneau Moscou. À l'entrée de la ville, même si des distances ont été prises depuis plusieurs années, le buste de Lénine, par exemple, a longtemps été présent, mais il a été retiré, et ça fait quand même quelques années aussi.
La mairie, hein.
Oui, oui, bien sûr, le buste de Lénine dans la mairie. Le maire socialiste Bertrand Kern a reçu des messages de ses habitants. Il a annoncé officiellement qu'il suspendait son jumelage avec la capitale russe. En France, 38 communes sont ou ont été jumelées avec des villes russes. Beaucoup en Île-de-France. Oui. Pour la plupart, c'est la date de l'époque où les mairies étaient communistes,
oui,
bien sûr.
Rouge.
Voilà, exactement. À l'image de Pantin, Orly, dans le Val-de-Marne, a également décidé de prendre ses distances avec Clean. Même volonté du côté d'Agen, Grande-Synthe dans le Nord, Le Mans ou Bressuire. D'autres tiennent un discours plus apaisé. Jean-Christophe Lagarde, ancien maire de Drancy dans le 93, jumelé avec Lioubersti, c'est dans la banlieue de Moscou. Eh bien, Jean-Christophe Lagarde rappelle que les jumelages ne sont pas, je cite, avec l'État russe, mais avec le peuple russe, et que de toute façon, certains liens sont franchement distendus s'ils ne sont pas totalement rompus depuis des années. La ville de Saint-Ouen, près de Paris, n'est plus communiste depuis 2014, mais certains échanges avaient cependant continué. Bon, les prochains dépendront, dit-on à la mairie, de la résolution du conflit. Coup de froid sur les jumelages avec des villes russes. C'est ainsi que titre son article dans le Parisien.
Merci Omblin. Ça fait maintenant plus près d'un mois que l'invasion russe en Ukraine a débuté. Un mois que l'on voit des villes comme Mariupol être rasées, des immeubles réduits à l'état de gravats. Un mois que l'on voit des millions de réfugiés fuir les combats avec enfants et animaux de compagnie sous les bras. Un mois que l'on se pose tous cette question. Et si ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais ? Alors il y a ceux qui balaient cette question d'un revers de la main, par optimisme, ou plutôt pour ne pas y penser. Et ceux qui prennent cette menace très au sérieux en répétant à l'envi ce proverbe latin « Si vis pacem, para bellum », si tu veux la paix, prépare la guerre. Ridicule, répondent alors les optimistes. L'État a tout préparé. Si une guerre venait à se déclarer, a fortiori nucléaire, nous aurons tous une place dans un bunker. Et c'est vrai, absolument. pas en France, mais en Suisse.
D'accord.
Nos voisins helvètes ont même 9 millions de places disponibles, soit 114% de leur population. Il y a donc même des places en rab. Résultat d'une loi qui, entre 1960 et 2006, imposait la construction d'un refuge souterrain dans les habitations.
Bon, alors chez nous, comment on fait ?
Eh bien, si l'on en croit cet article d'aujourd'hui en France, nous avons de quoi sécuriser un pourcentage de la population proche de 0%. Voilà pourquoi, depuis le début de la guerre en Ukraine, des milliers de Français ont décidé qu'ils allaient faire creuser un gros trou dans leur jardin. Désolé les enfants, ça ne sera pas une piscine, mais un abri anti-atomique. Depuis le 24 février et le début de la guerre en Ukraine, la demande explose à tel point que les standards téléphoniques des sociétés spécialisées sont saturés. Chez Amesis Bat, le leader du secteur, on enregistre une demande toutes les 20 minutes contre une dizaine par mois d'habitude, explique le patron qui a déjà reçu une bonne dizaine de commandes. Même constat chez Bunkle, dont la fréquentation du site internet a augmenté de 4000% depuis le début du conflit.
Je me demande comment arriver à survivre Amesis Bat et Bunkle, hein, il y a 3 mois de cela déjà. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant?
Bon. Il y avait un marché quand même.
Ah oui, oui, faut croire. Ces particuliers, qui sont-ils, ceux qui veulent construire un bunker chez eux?
Alors, il ne s'agit pas de millionnaires en quête d'une nouvelle fantaisie. Non, ils appartiennent presque tous à la classe moyenne. L'un de mes clients a dépensé 2 fois plus pour son bunker que pour sa maison, note le patron d'une société spécialisée. Il faut dire que ce n'est pas donné de faire construire son bunker. Comptez aux alentours de 100 000 euros pour un abri de 20 mètres carrés, une surface qui permet de passer avec ses proches plusieurs jours sous terre, mais pas plusieurs semaines, comme l'exige une attaque nucléaire dans votre périmètre. Sachez que si vous voulez plus grand, il faudra alors faire une demande de permis de construire, mais ne vous inquiétez pas, personne ne saura que vous vous offrez un abri anti-atomique. Les entreprises spécialisées ont leurs petites astuces. Aux yeux de la mairie, c'est un parking souterrain, voire une cave à vin.
Prévoyez. Ah oui, d'accord, on ne le dit pas, quoi.
Voilà, non, on ne le dit pas, parce que sinon, les voisins, ils arrivent tous le jour J. Et là, vous vous retrouvez un
petit peu.
Prévoyez 3 à 4 mois de délai pour la construction. Et si vous êtes vraiment pressé, que vous craignez une attaque de Poutine à tout moment, tournez-vous vers les abris anti-atomiques déjà construits, plutôt les gros modèles, dont les propriétaires louent parfois des places à l'intérieur pour amortir les coûts de construction. Par exemple, un bunker en région parisienne dont il restait 30 lits de libre affichait complet 4 jours après le début de l'invasion russe. Et pourtant, les places n'étaient pas données. 10 000 euros pour 5 ans.
Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à creuser dans le jardin voilà. À côté de la maison.
Faire couler une grosse dalle en béton armé, voilà. Un système de ventilation.
Voilà.
Ouais,
et prévoir des conserves.
Ça fait
rêver. Ouais, c'est sympa.
C'est bien.
Merci.
Bienvenue en 2022.
Voilà, bonne merci.
Vacances.
On se croit en 1963 à peu près, mais bon. Merci Julien et merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports. À tout à l'heure.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Il est 5h19 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Le journal permanent, Alban Le Prince.
La guerre en Ukraine, le pays rejette l'ultimatum de la Russie qui exige la capitulation de Mariupol. Dans la ville presque totalement détruite, une école a été bombardée par l'armée russe. Un acte de terreur, dénonce Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien appelle son homologue russe à négocier directement avec lui à Jérusalem. À Toulouse, 10 ans après les attaques de Mohamed Merah qui ont fait 7 morts, Emmanuel Macron et le président israélien Isaac Herzog ont rendu hommage hier aux victimes de la barbarie. Et puis en Belgique, au moins 6 morts, 26 blessés à la Louvière. Hier matin, une voiture a foncé dans une foule rassemblée pour participer à un carnaval. Les résultats des analyses sanguines des 2 occupants du véhicule sont attendus aujourd'hui. La piste terroriste n'est pas privilégiée.
C'est maintenant la chronique qui donne la parole à celles et ceux qui innovent. Ce sont les initiatives en France et elles nous emmènent ce matin à Nantes.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le patron de Kiplin, une application dont l'objectif premier est de lutter contre la sédentarité en entreprise. En clair, vous faites bouger les salariés, c'est ça ?
Exactement. On les fait jouer, on les fait bouger.
Comment ça marche exactement ?
C'est très simple en fait. Depuis votre application, vous pouvez suivre votre activité physique que vous faites au quotidien, toute l'activité physique, hein, pas uniquement le sport. Et en la suivant, vous générez un score et avec ce score, on va vous faire jouer dans différents types de jeux, d'aventures, de challenges.
Ce sont des activités que l'on réalise seul de son côté ou il y a des défis à atteindre en groupe avec ses collègues de bureau ?
Alors l'activité est faite comme vous le souhaitez, elle peut être faite seule ou en groupe. Par contre, tous les jeux sont des jeux collectifs, c'est-à-dire que vous êtes au sein d'une équipe qui va relever de manière collective une aventure.
Et l'idée, c'est que ça reste à vraiment ludique avant tout, c'est ça ?
Ouais, exactement. Nous, on a coutume de dire qu'on s'adresse plutôt aux gens qui sont fâchés un peu avec le sport, puisque ce qu'on va chercher, c'est les gens qui sont inactifs, qui n'ont pas ces fameuses 30 minutes d'activité physique modérée dans leur vie au quotidien. Voilà, c'est ça qu'on va aider. Nous, notre mission, c'est d'insérer 15 à 30 minutes d'activité physique modérée dans la vie des gens. Voilà.
Vous pouvez nous donner un exemple d'exercice qui est intégré dans cette application ?
Alors, on a différents types de challenges. Par exemple, on a une aventure où, en équipe, vous allez être actif. Au mesure de l'activité, vous allez déclencher des indices. Et avec ces indices, vous allez résoudre une enquête, par exemple. Voilà. Donc, tous les jours, entre collègues, vous allez marcher, vous allez faire du vélo. C'est les deux principales activités hein, qui sont faites au quotidien et principalement, d'ailleurs, sur le trajet de chez vous à votre travail.
Et tous ces exercices ont été, j'imagine, élaborés avec des professionnels, des coachs sportifs, des médecins ?
Ouais, on a dans notre équipe effectivement des professionnels de santé, on a aussi des spécialistes du jeu qui designent des jeux pour rendre tout ça le plus attractif possible.
Alors je disais, cette application est utilisée par des salariés, ça veut dire que ce sont les directeurs de ressources humaines qui vous contactent pour pouvoir utiliser cette application ?
Exactement, ce sont alors soit les RH, soit parfois la direction hein, qui a des fins de lutter contre l'inactivité physique pour aussi veiller, je dirais, à limiter l'absentéisme à terme. Propose à leurs collaborateurs de jouer avec notre application.
Si vous avez eu cette idée, c'est parce que vous-même, vous venez de ce milieu-là, des ressources humaines ?
Exactement, ouais, j'ai travaillé beaucoup avec des services de ressources humaines et puis surtout l'idée elle vient du fait que je voyais trop des gens utiliser le sport en entreprise, donc le sport effectivement est très intéressant mais souvent il n'intéresse pas l'ensemble des collaborateurs. Nous notre objectif c'est de convaincre un maximum de collaborateurs. Souvent aujourd'hui quand on déploie notre solution dans des entreprises, on a environ 60 à 65% des effectifs qui jouent. Pourquoi ? Parce qu'on est très accessible, on est très inclusif. Et encore une fois, on va chercher les gens qui sont le plus loin de l'activité physique.
Parce que vous avez vu, avec votre expérience, vous avez vu des maladies chroniques se déclencher du fait de la sédentarité au bureau et qui deviennent du coup pénalisantes pour l'entreprise avec de l'absentéisme ?
Bah exactement. Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel les malades chroniques sont de plus en plus présents. Ça représente grossièrement mais presque 20 millions de Français. Donc voilà, c'est très important. Presque un cinquième des effectifs en entreprise est atteint de maladies chroniques. Quand on parle de maladies chroniques, on parle de cancer, d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires. Et c'est toutes ces maladies qu'on vient contrer avec l'activité physique.
Combien de personnes aujourd'hui utilisent votre service au quotidien ?
Alors l'année dernière, plus de 70 000 personnes ont joué. Avec notre application, et on double d'activité à peu près tous les ans.
Alors votre application n'est pas encore disponible pour les particuliers, ça viendra peut-être. En revanche, certains hôpitaux et cliniques font appel à vous, c'est ça ?
Exactement, c'est-à-dire que du monde du travail, le monde de la santé, strictement parlé, est venu nous chercher en nous disant « mais puisque vous arrivez à faire bouger des collaborateurs, nous on aurait besoin que vous fassiez bouger nos patients, parce que pour eux aussi c'est très bénéfique, et donc depuis maintenant 2 ans, on travaille avec des établissements de santé, avec des médecins libéraux en ville, qui utilisent notre application pour leurs patients. Et là, on travaille principalement auprès de patients atteints de cancer, de diabète et d'obésité.
Et l'objectif, c'est donc pareil hein, que pour les salariés.
Exactement.
C'est de les motiver et de faire un suivi d'activité de certains patients ?
Ouais, les patients ne sont pas différents du reste de la population sur ce sujet-là, en tout cas. Ils aiment jouer, et ils aiment être avec d'autres personnes, avec leur père, avec leur famille. La seule différence, c'est que là, ils jouent pas avec des collègues, mais ils jouent soit entre patients, soit avec leur famille. Aujourd'hui, on a des communautés de joueurs qui sont des patients, et c'est très très sympa à animer.
Et c'est dans ce cadre-là qu'avec une ordonnance, Kipline peut être remboursé par la Sécurité sociale, c'est ça ?
Alors, Kipline est prescrit, effectivement, par des médecins. Sur certains parcours, elle peut être financée, effectivement, par l'assurance maladie, pas dans toutes les maladies. Mais dans ce cadre-là, effectivement, on récupère une prescription d'activité physique adaptée. Et c'est sur prescription du médecin que des patients vont jouer avec notre application.
Bon, et quand est-ce que nous autres particuliers pourrons bénéficier de votre application ?
Ah, le plus vite possible. On y travaille. C'est une grande étape pour une petite société. Hein. On est à peine une cinquantaine de personnes. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler. Mais pour ceux qui nous écouteraient et qui, malheureusement, sont atteints de diabète, actuellement, notre application est ouverte sur prescription à tous les patients atteints de diabète de type 2. Ils peuvent se rendre sur notre site internet et ils auront les liens pour s'inscrire. Et c'est gratuit.
Merci beaucoup, Vincent Tarot, de nous avoir présenté Kipline, l'application qui vous veut du bien. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, bon réveil, bon lundi 21 mars. À suivre le journal de Christophe Lamar, suivi de la prescription culture. Et le lundi, on parle série.
Avec le retour de la créatrice de 10%, Fanny Herrero, après l'univers impitoyable des agents de comédiens, elle s'est penchée sur le phénomène du stand-up. On suit quatre jeunes humoristes parisiens dont le rêve est de percer dans le métier. Ça s'appelle Drôle et c'est le choix série de Marie Jiquel.
Et puis une étude de grande ampleur publiée il y a quelques jours qui montre que les jeunes adultes prennent plus de risques en voiture.
Oui, ils ont entre 18 et 24 ans et roulent plus vite que les conducteurs expérimentés, roulent plus longtemps également, ignorant la fatigue et consultent leur téléphone portable en conduisant. Pourquoi un tel sentiment de toute puissance? Et en quoi la voiture et l'obtention du permis de conduire sont aujourd'hui des marqueurs sociaux d'intégration? Nous en parlerons dans un quart d'heure avec le directeur de l'étude Les Jeunes au Volant, le sociologue David Le Breton.
Anissa Dadi, il y a de l'humidité et du vent dans le sud.
C'est vrai qu'il y a une demi-heure, je vous ai parlé du très très beau temps qui allait régner aujourd'hui sur l'ensemble de la France. Et effectivement, en général, il va faire très beau, mais nous avons au bord de la Méditerranée, avec sur le Languedoc-Roussillon et jusqu'aux Cévennes, des pluies très fortes dès ce matin. Ça va durer toute la journée, les pluies vont se calmer, hein, vous le verrez en deuxième partie de journée. Et en plus, les pluies sont accompagnées de vent d'autant qui va souffler jusqu'à 80 km/h ce matin, 100 km/h en deuxième partie de journée. Donc c'est très agité au bord de la Méditerranée. Sur le Pays Basque, cet après-midi, ce sont les orages qui éclatent. Donc vous voyez vraiment que sur l'extrême sud, c'est assez gris et agité. À part ça, à part sur le pourtour méditerranéen, à part dans le Pays Basque, eh bien partout ailleurs, on a du grand et beau soleil. C'est une journée de printemps idéale avec quelques petits nuages qui traînent ce matin dans le ciel. Mais cet après-midi, vous allez voir les nuages se morceler pour laisser place à un soleil radieux. Les températures, alors on a quelques gelées ce matin. Moins 1 à Charleville-Mézières, 0 à Rouen, 3 pour Annecy, Strasbourg, 5 à Paris et Lyon, 7 à Vannes, 9 à Bordeaux et 11 à Toulouse. Et alors cet après-midi, on va gagner 2 à 3 degrés par rapport à hier. 10 à Rodez, 13 à Perpignan, 17 degrés à Marseille et Amiens, 18 pour Paris et Lille et 20 la maximale à Mont-de-Marsan.
C'est printanier tout ça, merci beaucoup Anissa Dadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Tout a basculé en une seconde. Le temps qu'on comprenne, l'inimaginable en fait, c'était horrible.
Le choc en Belgique après le drame qui a fait au moins 6 morts et une dizaine de blessés graves hier après-midi. Une voiture a foncé dans la foule en plein carnaval. Le conducteur et son passager ont été interpellés. La piste terroriste exclue à ce stade. La guerre en Ukraine, la Russie continue ses bombardements sur les principales villes du pays. Situation catastrophique sur le plan humanitaire. Plus d'un quart des Ukrainiens a quitté son domicile pour fuir les combats. La France met en place un statut social et sanitaire pour les accueillir. Et puis la présidentielle, Emmanuel Macron au plus haut dans les sondages, mais au sein de la Macronie, l'atmosphère tourne à l'orage entre marcheurs de la première heure et les nouveaux venus. Révélation à suivre dans ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. La fête a donc tourné au drame hier à Strépy-Brakni dans le sud de la Belgique. Une voiture a foncé dans la foule qui se préparait à célébrer le carnaval. Bilan au moins 6 morts, une dizaine de blessés graves. Le conducteur et son passager qui est rentré de boîte de nuit ont été interpellés. Les analyses sanguines diront dans la journée s'ils étaient alcoolisés ou sous l'emprise de stupéfiants. Si la piste terroriste est écartée à ce stade, la commune est toujours sous le choc. Reportage Maximilien Carlier.
Sur la route, on voit encore des traces de sang. Juste à côté, au pied d'un arbre, des bouquets de fleurs déposés par les habitants. Fabrice Collignon était présent lors du drame. Il raconte l'instant où la voiture a percuté la foule.
Le temps de se dire qu'est-ce qui se passe, c'était terminé. Sauf que une seconde avant, les gens étaient heureux d'entendre les airs de Gilles, les tambours. Et qu'une seconde après, c'était des cris, des pleurs, des enfants qui criaient après leurs parents, des femmes qui criaient après leur mari. Tout a basculé en une seconde. Le temps qu'on comprenne, l'inimaginable en fait, c'était horrible.
« Ma vie ne tient qu'à un mètre », raconte-t-il. Il s'est écarté de la route pour décrocher son téléphone et n'a pas été percuté. Dans le village, les gens se retournent désormais quand une voiture arrive derrière eux. Mélanie, une riveraine, est émue, elle qui a l'habitude de faire des carnavals.
Ça aurait pu nous arriver à nous aussi, c'est vraiment... il n'y a pas de mots. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gens-là, quoi? C'est quoi leur délire à ce moment-là et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire?
Ce sont des dégénérés, selon elle, mais tout ça ne nous empêchera pas de continuer à faire la fête. Rien ne pourra arrêter le folklore, insiste-t-elle, surtout ici en Belgique. Strépy Brakni, Maximilien Carlier, Europe 1.
Autre drame, celui qui frappe l'Ukraine avec cette guerre qui promet de durer. La Russie poursuit ses bombardements, parfois intensifs, sur les plus grandes villes du pays.
Et l'Ukraine accuse Moscou d'avoir bombardé une école à Mariupol, ville décidément martyre de cette guerre. Aucun bilan précis pour l'instant, on sait juste que des civils s'y étaient réfugiés. Un acte de terreur, dénonce le président Zelensky, qui se dit prêt à négocier directement avec Vladimir Poutine pour arrêter ce conflit. Le chef d'État ukrainien en appelle à la médiation d'Israël et propose de discuter de la paix à Jérusalem, un bon endroit pour trouver une issue pacifique à cette guerre, selon lui.
Et le temps presse, hein. Il y a les bombardements et les destructions, il y a aussi une situation humanitaire qui tourne à la catastrophe.
Plus d'un quart de la population a fui son domicile selon les Nations Unies, cela représente 10 millions de personnes jetées sur les routes. Certaines se réfugient plus à l'ouest, vers la frontière polonaise, d'autres partent à l'étranger, notamment en France. 20 000 ont déjà été accueillis sur le sol français. Le gouvernement a mis en place un statut social et sanitaire spécifique pour leur venir en aide. Il prévoit notamment un accès direct aux soins, Yasmina Katou.
Oui, le statut de protection temporaire délivré par les préfectures offre aux Ukrainiens le droit à l'assurance maladie. La complémentaire santé solidaire, l'ex-CMU, est aussi automatiquement activée dès leur arrivée. Aucun justificatif de revenu n'est demandé pour permettre un accès aux soins pour tous. L'obtention de cette couverture médicale complète est habituellement conditionnée à un délai de 3 mois après l'arrivée sur le sol français pour tous les demandeurs d'asile. Mais face à l'urgence de la situation, le gouvernement français a supprimer la période de carence. Concrètement, cela permet aux réfugiés ukrainiens de bénéficier de soins sans avancée de frais et sans délai, que ce soit pour le médecin généraliste, le dentiste ou même pour voir un kinésithérapeute par exemple. Les Ukrainiens, qu'ils soient vaccinés ou non, pourront aussi faire des tests PCR et antigéniques gratuitement, même sans prescription médicale. La prise en charge des tests par l'assurance maladie est prévue jusqu'au 31 mai.
Yasmina Katou, cette catastrophe humanitaire et la réponse à apporter à la Russie seront au cœur des discussions jeudi à Bruxelles entre les dirigeants de l'OTAN, du G7 et bien sûr de l'Union européenne. Réunion en présence de Joe Biden avec de nouvelles sanctions possibles à l'encontre de Moscou. Le président américain se rendra par ailleurs le lendemain à Varsovie pour y rencontrer son homologue polonais.
La campagne pour l'élection présidentielle. Emmanuel Macron continue de survoler les sondages et pourtant, dans l'entourage du président candidat, l'ambiance n'est pas tout à fait sereine.
Et hier, sur notre antenne, le porte-parole de La République En Marche, Stanislas Guérini, en a appelé aux valeurs du rugby qui ont permis au 15 de France de réaliser l'exploit dans le tournoi Destination. Il faut un pacte solidaire, dit-il, manière de ressouder une majorité qui tangue un petit peu. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Du service politique d'Europe 1, Jacques, vous nous révélez ce matin que plusieurs camps s'affrontent au sein même de la majorité, y compris parmi les plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron.
Oui, et selon certains qui chuchotent son prénom, un homme cristallise une partie des tensions. Alexis Kohler, le plus proche parmi les proches d'Emmanuel Macron. Secrétaire général de l'Élysée, il doit faire face à une fronde. Certains conseillers qui viennent notamment du privé ne veulent plus travailler avec lui. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait une coagulation contre lui. Maintenant, la coagulation se transforme en coalition, lâche un conseiller de poids du président. Des tensions au palais, mais aussi rue du Rocher, au QG de campagne du candidat, où deux clans s'affrontent. Les Mormons, ceux qui étaient déjà là lors de la présidentielle de 2017, contre les mousquetaires, les nouveaux lieutenants arrivés en cours de route. Tous ont en commun d'être animés par la réussite de leur champion, mais ils ne peuvent s'empêcher de se critiquer. Un membre d'un des deux clans résume l'atmosphère. Entre nous, c'est jalousie, coups bas et accusations en incompétence. À cela s'ajoute l'arrivée dans la campagne de personnalités issues des rangs des Républicains, tels que Christian Estrosi, Renaud Muselier ou Hubert Falco, des ralliements qui en interne n'arrangent rien à ce climat de ressentiment. Eux, ce sont les barons féodaux, ils incarnent le pire de l'ancien monde, donnent des leçons et volent des places, peste un conseiller marcheur de la première heure. Querelle de courtisans autour du roi Macron, qui se garde bien de dévoiler à qui il accordera ses faveurs en cas de réélection.
Jacques Serret, allez le football, Marseille monte sur la deuxième marche du podium en Ligue 1 après sa victoire sur Nice 2-1 hier soir. Rien ne va au PSG décidément, battu sèchement 3-0 hier par Monaco. En rugby en revanche, le 15 de France savoure son triomphe dans le tournoi Destination. Un hors-d'œuvre avant le plat de résistance, Axel May, les Bleus pensent très fort à la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu, ça tombe bien, en France.
Oui, le tournoi à peine terminé, la Coupe du Monde s'invite déjà dans les esprits. 2023, on l'a tous dans un coin de la tête, reconnaît la nouvelle star Antoine Dupont, affectueusement surnommé Toto par ses camarades. Président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte, séduit par cette équipe de bons mecs, comme il les appelle, leur donne même rendez-vous en finale.
C'est ce que je leur dis, quand vous vous levez tous les matins, il faut penser au 28 octobre 2023. C'est de se dire, je serai là, le 28 octobre 2023. C'est ça qui habite le champion, qui doit les amener à aller de l'avant.
incarnation de cette équipe de France qui s'est remise à gagner après plus d'une décennie de lose, le sélectionneur Fabien Galthié.
Quand tu gagnes, ça veut dire que tu fais les bons choix, que tu travailles bien, que tu donnes la bonne direction avec une équipe qui est encore jeune et donc qui va encore grandir et s'améliorer. C'est notre 25e match, la Coupe du Monde, ça sera le 46e à la finale. Voilà, donc c'est assez clair dans nos têtes.
Après leur grand chelem, les Bleus sont ce matin deuxième nation de la planète Ovalie, rang qu'ils n'avaient plus occupé depuis 15 ans, derrière les Sud-Africains, champions du monde en titre.
Axel May du service des sports d'Europe 1.
Et cette prochaine Coupe du Monde, ce sera avec Fabien Galthié, l'actuel sélectionneur du 15, qui a prolongé son bail à la tête des Bleus jusqu'en 2027. Merci beaucoup Christophe Lamarre pour toutes ces informations. On passe aux courses et pronostics du Quintet. Thierry Léger, rebonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome de Compiègne que va se courir ce quintet. Et parmi les 15 partants qui en découdront sur la distance de 1800 mètres, j'ai choisi Amédras, le numéro 2, qui vient de remporter un quintet similaire le 19 février à Caen-sur-Mer et qui, sur sa lancée, me paraît capable de doubler la mise. L'opposition sera constituée par les numéros 5, Haïbari, invaincu sur cet hippodrome de Compiègne, 1, Salesman, probe en deuxième le 1er mars à Chantilly pour sa course de entrée après 5 mois d'absence, 8 El Magnifico qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et 6 Quartz d'argent pour lequel son entraîneur Philippe Sogorbe n'hésite pas à effectuer un long déplacement depuis Mont-de-Marsan non sans avoir quelques certitudes. Enfin les numéros 3 Iron Waters, 4 Pegasus et 12 Delta Spirit compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2 5, As, 8, 6, 3, 4 et 12.
Vous avez écrit assez vite.
Ouais. 2, 5, As, 8, 6, 3, 4 et 12.
Pas mal. Vous retrouvez bien sûr ces pronostics sur europe1.fr. Si jamais vous voulez confirmer, Julien, n'hésitez pas à jeter un œil. Merci.
Oui, absolument.
Merci Thierry.
À tout à l'heure.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu de...
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Il y a 28 ans, précisément, le 21 mars 1994, le réalisateur américain Steven Spielberg recevait 7 Oscars à Hollywood pour son film La Liste de Schindler. Bonjour Lord Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Dont l'Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure adaptation, meilleure musique. Bref, Lord, ce film marque de son empreinte l'histoire du cinéma.
Oui, l'histoire d'Oskar Schindler qui a sauvé 1200 juifs de la solution finale pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était membre du parti nazi et s'est transformé en héros. Propriétaire d'une usine, Oskar Schindler emploie des ouvriers juifs et leur évite les camps de la mort en les prenant sous sa protection. Parmi eux, il y a Léopold Page. Il témoigne en 1994 sur Europe 1 au micro de Michel Grossior.
Tout le monde rêvait d'être embauché dans son usine. Je me souviens, moi-même, quand je travaillais dans le garage du chef nazi du camp de Plaschow, quand quelqu'un était désigné pour aller chez Oskar Schindler, on s'exclamait tous « Oh mon Dieu, quelle chance !» C'était le passage de l'enfer au paradis.
Ada Foster, elle aussi était sur la liste des Juifs d'Oskar Schindler et elle a pu être sauvée. Elle a vécu en France à partir de 1946. Elle travaillait pendant la guerre dans l'usine de Schindler et témoignait sur Europe 1 en 1996.
Il a payé en Auschwitz pour nous sortir quand il pouvait. De temps en temps, il a acheté des brioches et il nous a donné pour nous vraiment adoucir un petit peu la vie.
Ouais,
parce que le camp, il était tenu par les SS.
Parce qu'en Pologne, à Cracovie, il y avait ce camp et à l'intérieur, l'usine d'Oskar Schindler.
Ce film qui remporte 7 Oscars, c'est aussi le premier film non hollywoodien de Spielberg, Laure.
Oui, un film de 3h15, des images en noir et blanc, la musique puissante de John Williams, un film terrifiant en forme de documentaire pour ne pas oublier la Shoah. Steven Spielberg dit avoir réalisé l'œuvre maîtresse de sa vie, il veut toucher les jeunes générations, comme il le confie sur Europe 1 en 1994.
L'Holocauste n'est même pas enseigné dans les lycées américains, déplore Spielberg, qui souhaite donner envie aux jeunes d'en savoir plus après son film.
Le film a très bien marché, 65 millions de téléspectateurs aux États-Unis, la première fois qu'il a été diffusé à la télévision. Réaction de spectateurs français en cette année 94 à la sortie d'une salle de cinéma.
C'est un véritable chef-d'œuvre.
Je suis désolé, je trouve pas les mots.
Il n'y a pas de mots.
Les cinq dernières
dernières minutes sont aussi éprouvantes que le reste du film, dans la mesure où l'on voit tous ses descendants et tous les personnages qui ont contribué au film apparaître dans le défilé du film.
Ce n'est pas un film sur la Shoah, disait Steven Spielberg, c'est une histoire dans l'histoire, l'histoire d'Oskar Schindler qui devient un être humain respectable.
Merci beaucoup Laure d'Autriche et à demain pour un nouveau jour où, dans un instant sur Europe 1, on parlera de cette étude publiée il y a quelques jours sur les jeunes au volant.
Omblin Roche et Julien Pierce. Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous n'êtes branché Europe 1. Il est 5h44 et on revient ce matin sur les chiffres inquiétants concernant les jeunes au volant. Au mois de février, 38 conducteurs âgés entre 18 et 24 ans ont perdu la vie sur les routes de France. C'est 4 de plus qu'en février 2021. En parallèle de ces chiffres communiqués par la sécurité routière, une nouvelle enquête sociologique montre en ligne que les jeunes adultes prennent plus de risques en voiture.
Et on en parle avec le sociologue David Le Breton. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez dirigé cette enquête de grande ampleur, les jeunes au volant, publiée aux éditions RS. La moitié des conducteurs impliqués dans les accidents corporels ont entre 18 et 29 ans, alors qu'ils ne réalisent que le quart des kilomètres parcourus. Vitesse, fatigue, téléphone portable, insouciance, ils compilent toutes les causes accidentogènes.
Oui, tout à fait. Les jeunes générations donc sont finalement extrêmement vulnérables sur la route. Ils sont également dangereux à leur insu pour les autres. Alors que très souvent, on met plutôt l'accent sur les personnes âgées, mais les chiffres vraiment n'ont aucun rapport. Les jeunes générations ont beaucoup moins d'expérience, évidemment, que les autres conducteurs. Ils sont plus enclins à aller vite. Ils sont plus enclins à ne pas s'arrêter en dépit de la fatigue, par exemple. Ils sont plus enclins également à un usage assez effréné des réseaux sociaux ou en tous les cas de leur portable de manière générale. Donc ils ont une attitude finalement plus relâchée, si l'on peut dire, sur la route, un peu moins responsable. Même si, bien entendu, il ne faut absolument pas généraliser parce que dans l'étude menée, énormément de nos jeunes disent leur sentiment de responsabilité, leur attention est extrême aux piétons, aux cyclistes, aux autres automobilistes.
David Le Breton, vous écrivez dans l'étude « Le risque routier est fondamentalement masculin, conduire vite, brusquement, c'est quoi ? C'est une démonstration de virilité ? »
Oui, voilà, tout à fait. On a affaire à des formes de rites de virilisation. Ce sont majoritairement des garçons qui sont les plus victimes d'accidents et ce sont eux qui les causent le plus par ailleurs. Donc il y a effectivement pour beaucoup de garçons une volonté de se valoriser à travers la vitesse, peut-être éventuellement à défaut d'autre chose dans leur vie personnelle. Évidemment, ça prend des formes extrêmes dans les rodéos automobiles ou autres. Ce sont aussi souvent des jeunes qui doublent par contre de manière dangereuse avant des virages ou dans des endroits où la visibilité n'est pas la meilleure. Oui, il y a une modalité finalement d'affirmation de soi qui caractérise notamment les garçons. On voit beaucoup moins de filles prendre des risques en conduisant plus vite, en doublant dans des endroits périlleux, etc. Non, c'est davantage un phénomène de garçons qu'on peut donc associer à une recherche de la virilité au volant.
Et un marqueur d'intégration sociale également, selon vous ?
Ah oui, évidemment. C'est l'un des points qui m'a troublé, d'ailleurs, ému même dans l'enquête, c'est que pour les jeunes générations, l'obtention du permis est vraiment un moment très, très, très important dans leur vie. On dit souvent qu'il n'y a plus aucun marqueur du passage à l'âge d'homme ou de femme dans nos sociétés, mais finalement, j'ai l'impression que le permis de conduire leur donne le sentiment d'une liberté désormais formidable, une liberté de circulation, et l'obtention du permis se fait dans beaucoup de cas, beaucoup de jeunes qui viennent de l'obtenir font la tournée de leurs copains, de leurs parents, de leurs grands-parents, etc., pour dire « je l'ai, je l'ai, je l'ai ». C'est un moment très fort, effectivement, un sentiment d'intégration sociale, le sentiment de devenir un homme, une femme, qui se cristallise encore avec la première voiture, qui est souvent le premier achat du jeune. Donc, il a parfois travaillé pendant l'été, où il a fait des économies, et sa voiture est aussi une sorte de symbole de sa nouvelle citoyenneté, de sa nouvelle liberté à l'intérieur du lien social.
Vous établissez un lien entre la façon dont les jeunes conduisent et celle de leurs parents. Ils reproduisent le schéma familial ?
Pour moi, ils le reproduisent avec beaucoup de nuances quand même, parce que ce ne sont pas seulement les parents qui donnent un enseignement sur la manière de conduire. Il y a aussi les grands-parents, par exemple, qui jouent un grand rôle. Il y a les frères, il y a les sœurs, il y a les amis. Il y a aussi, évidemment, les moniteurs d'auto-école qui jouent quand même un rôle absolument essentiel, qui semble être d'ailleurs extrêmement respecté par une immense majorité des jeunes que nous avons interrogés. Donc je pense que finalement, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le dit. J'imagine mal mal une transmission univoque, transparente, de la manière de conduire des parents à la manière de conduire des enfants. D'autant plus que souvent, les enfants sont très critiques par rapport à la conduite de leur père ou de leur mère. Donc, ils ont une capacité de réflexivité, de relativisation, qui fait qu'à mon avis, ils tirent leur épingle du jeu.
Existe-t-il une disparité entre les jeunes selon l'endroit où ils vivent en France, en ville, à la campagne? David Le Breton, je prendrai l'exemple de Violaine, 19 ans, qui dit à Paris, il faut s'imposer ou on crève, je m'impose plus, je suis plus brusque, plus agressive. En gros, c'est la jungle urbaine en ville, et la voiture le montre.
Beaucoup de jeunes qui vivent à Paris ou dans les banlieues proches n'ont vraiment aucune envie d'avoir une voiture et n'ont même pas envie de passer un permis de conduire parce que pour eux c'est tellement encombrant de se garer, de circuler dans la ville. Donc là, les jeunes parisiens plébiscitent quand même les transports en commun, voire le vélo ou la trottinette électrique. À la campagne, évidemment, la voiture est absolument nécessaire. Si vous habitez à 15, 20, 30 kilomètres de votre lycée, de votre université ou de votre lieu de travail, vous êtes quand même contraint à la voiture parce qu'il y a un manque énorme d'infrastructures. Et pour beaucoup de jeunes qui vivent dans les grandes villes, là, on a des réponses un peu disparates. Il y en a un certain nombre qui ne voient pas trop l'intérêt d'utiliser leur voiture à Strasbourg, à Toulouse, à Pau ou ailleurs. Il y a une obligation de voiture dans le monde rural. Et puis finalement, un choix beaucoup plus large pour ceux qui vivent en ville, dans les grandes villes, et pour les jeunes parisiens, souvent, l'idée que la voiture est vraiment un encombrement, que ça coûte cher, que ça fait perdre finalement davantage de temps que d'en gagner si on vit à Paris et qu'on a les transports en commun sous la main ou qu'on a son vélo avec les pistes cyclables.
Merci beaucoup David Le Breton d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg et vous avez piloté cette enquête « Les jeunes au volant » commandée par la Fondation Vinci Autoroute, publiée aux éditions RS. Merci, bonne journée.
Merci infiniment.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Soyez prudents sur la route, il est 6h10 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité avec Alban Leprince.
Bientôt un mois que la guerre a débuté en Ukraine et toujours pas d'avancée dans les négociations pour y mettre fin. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, appelle son homologue russe à dialoguer directement avec lui, de préférence à Jérusalem. L'Ukraine ne déposera pas les armes et ne quittera pas Mariupol. La réponse cette nuit du gouvernement à l'ultimatum russe. La ville est presque entièrement détruite, une école y a été bombardé ce week-end. En France, lancement aujourd'hui d'une campagne de recrutement dans les métiers du soin. Elle s'adresse notamment aux jeunes et aux personnes en reconversion. L'objectif est notamment de recruter 10 000 alternants à la rentrée prochaine. Et puis, après le succès du 15 de France ce week-end en tournoi destination, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Fabien Galthié, vient d'être prolongé jusqu'en 2027.
Et on retrouve maintenant Marie Jiquel pour votre prescription série.
Bonjour Marie.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Bonjour Marie. Alors après avoir exploré les coulisses du milieu du cinéma et cartonné accessoirement dans le monde entier avec sa série 10%, Fanny Herrero s'immisce dans celui du stand-up, le seul en scène comme on dit en bon français. Drôle, sa nouvelle série est disponible sur Netflix dans 191 pays quand même.
Je suis beau. Ah, c'est pas pratique d'être beau. Quand je vais au distributeur, le distributeur il me dit... Ah désolé, j'ai pas de monnaie, bon courage, bonne journée. Ça ne va pas être bien.
C'est après un dîner avec Gad Elmaleh que Fanny Herrero s'est intéressée à ces scènes. La première étape pour les humoristes qui veulent se professionnaliser, les comedy clubs. Et elle met donc en scène dans Drôle les débuts difficiles de ces apprentis comiques qui, derrière les blagues et le sourire, doivent remplir des salles parisiennes et faire face à la concurrence.
Comment ça se passe au théâtre?
Dur, hein?
Non. Ouais, c'est un peu calme, c'est un petit peu calme. Mais moi, je pense, Laurent, que c'est le créneau du lundi et mardi, tu vois, c'est pas facile. Ouais. Tu penses qu'on pourrait changer bientôt?
Désolé, ma grande, mais avant de changer de créneau, il faut déjà remplir la salle.
Bah alors, désolé, mon vieux, mais pour remplir la salle, faut me faire de la pub. Hein, parce que là, franchement, vous m'aidez pas beaucoup. Hein.
Moi, j'adore ton spectacle. Franchement, il y a des parties qui sont vraiment très, très drôles, mais si ça remplit pas d'ici 15 jours, on risque de revoir la programmation de la salle.
Voilà, on suit l'ascension ou la descente de quatre stand-uppers aux milieux sociaux différents. Aïssa Tou, Bling, Nézir et Apolline qui ont tous un but dans la vie, faire rire le monde entier. Et donc qui alternent entre boulot alimentaire et galère personnelle. Et puis on suit leur processus d'écriture, de recherche de la bonne saillie, des punchlines testées.
Et sur Bernard Pivot, j'ai Bernard Pivot, qu'est-ce qui est le plus long, vos dictées ou vos sourcils?
C'est excellent.
Il est génial, tu l'as trouvé où lui?
Ah, excellent, excellent.
Voilà, alors drôle, ce n'est pas qu'une longue série de blagues. Fanny Herrero s'attache à la dramédie, ce mélange de drame et de comédie. Drôle dépeint surtout quatre portraits de jeunes parisiens.
Oui, parce que côté réalisation, Marie, il y a ces allers-retours entre la scène et la vie privée.
Oui, une réalisation dynamique, vivante, avec une bande-son fraîche et pétillante, un scénario bien mené et des sketchs, évidemment, qui ont été écrits par des habitués des stand-up. Les quatre personnages principaux ne sont pas des comiques à la base, mais bien des comédiens. Bon, leur jeu est parfois inégal, mais Drôle s'annonce un succès. J'ai vérifié ce matin, et Drôle fait déjà partie du top 10 des programmes les plus regardés sur Netflix. Et puis, c'est une série qui surfe un peu sur cette tendance du stand-up qui émerge depuis quelques années. Il y a de plus en plus de scènes de stand-up, mais aussi des séries là-dessus. Vous vous rappelez de la série avec Blanche Gardin, hein, la meilleure partie, la meilleure version de moi-même.
La série Drôle, donc, en 6 épisodes de 45 minutes à voir sur Netflix. Et on peut s'attendre, Marie, à une suite, c'est ça, hein, puisque
oui.
Fanny Herrero a souligné le choix d'une écriture de scénario faite pour durer.
C'est ce tout à fait.
Bon,
tout
merci à fait, beaucoup, Marie Jiquel.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57 sur Europe 1, dans un instant la météo et votre invité Julien.
L'économiste Bruno Parmentier, spécialiste des questions d'agriculture et d'alimentation, car les bombes qui tombent actuellement sur les malheureux Ukrainiens vont aussi avoir pour conséquence de provoquer une crise alimentaire mondiale. Et pour cause, l'Ukraine et la Russie représentent à elles seules un tiers du blé de la planète. Du blé qui commence à manquer dans de nombreux pays pauvres, principalement en Afrique du Nord. Alors allons-nous vers un ouragan de famine, comme le prédit le secrétaire général de l'ONU? Réponse dans une dizaine de minutes avec Bruno Parmentier. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
En 1993, un film braque ses projecteurs sur une maladie encore taboue, le sida, et sur la solitude de ceux qui en souffrent. I walk the avenue till my legs
feel like stone.
Tom Hanks met un visage sur ce fléau. Bruce Springsteen, des mots, un rythme soutenu et une mélodie, la partition de la BO de Philadelphia dans 20 minutes.
Le retour d'Anissa Haddadi pour la météo et le temps s'améliore pour presque tout le monde.
Pour presque tout le monde, effectivement, parce qu'on a eu quand même ce week-end une goutte froide hein, qui a provoqué des averses sur une grande partie centre de la France. C'était assez tristouné pour certains ce dimanche. Alors cette goutte froide, elle s'est évacuée vers l'Irlande et donc le temps redevient très sympathique aujourd'hui pour ce premier jour du printemps. Donc dès ce matin, nous avons un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Et puis cet après-midi, sur la moitié nord, le long de la façade est, le long de l'Atlantique, en Auvergne, en région Rhône-Alpes, là nous avons du très beau temps. Le soleil domine, le bémol, il est pour le sud de la France. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toujours cette dépression sur les îles Baléares. Et du coup, par conséquent, les températures et le temps sont très agités sur le Languedoc-Roussillon, avec de fortes pluies ce matin, du vent à 100 km/h et des orages qui éclatent sur les Pyrénées-Atlantiques cet après-midi. Ailleurs, le soleil domine, mais c'est vrai que dans le sud, c'est franchement pas terrible. Alors, je vous parlais des températures. On a moins 2 à 5 degrés sur la moitié nord ce matin et jusqu'à 11 en Occitanie. Ce matin, il fait doux dans le sud, mais c'est très très gris.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1 et vous avez bien raison, c'est le printemps. Nous sommes le lundi 21 mars. Et il est 6h. Plus de mathématiques dans les emplois du temps des lycéens. C'est la solution proposée par un comité d'experts face à l'abandon de la matière. Un ajustement qui pourrait s'appliquer dès la rentrée prochaine à condition d'avoir assez de professeurs. Explication dans un instant. L'Ukraine dit non, le pays ne cédera pas. Mariupol, ville bombardée par Moscou. En Russie, des milliers d'opposants et intellectuels fuient le pays pour s'exiler notamment en Turquie. Nous serons à Istanbul dans ce journal. Et puis, savez-vous où se trouve la capitale internationale de la marionnette? Un indice, c'est dans l'est de la France. Pour la journée mondiale de la marionnette, on vous ouvre les portes de la seule école d'Europe. Reportage à suivre.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Comment redonner la bosse des maths aux lycéens français? Une équation qu'un comité d'experts a tenté de résoudre. Il rend aujourd'hui son rapport au gouvernement.
Les mathématiques, une discipline qui a perdu près de 20% de ses heures dans les emplois du temps des élèves depuis 2019.
Et depuis la réforme du bac, la discipline est désormais facultative. Une option à choisir ou non en première. Une spécialité surtout désertée par les filles. Moins 10 points en 3 ans. Alors que préconisent les experts pour repeupler les classes de maths? Les explications de Louise Salé.
Plus de mathématiques dans le tronc commun au lycée, ce tronc commun étant l'ensemble des matières que tous les élèves doivent suivre, quelle que soit leur spécialité choisie. Comment faire? Eh bien, les experts conseillent d'augmenter les heures du cours appelé enseignement scientifique en première. Ce cours passerait de 2h à 3h30 par semaine, avec un surplus d'heures donc consacré uniquement aux maths. Cet ajustement dans l'emploi du temps pourrait s'appliquer dès la rentrée prochaine. Problème, des candidats au concours de professeurs de mathématiques manquent à l'appel et les inscriptions au CAPES sont déjà closes pour la rentrée prochaine. Les cours seraient donc assurés dès septembre en heures supplémentaires par des enseignants déjà en poste.
Louise Salé, un ajustement dès septembre à condition aussi que la majorité remporte l'élection présidentielle. Le président candidat Emmanuel Macron est favori dans les sondages d'intention de vote. La progression des contaminations Covid, plus 30% en moyenne sur une semaine. Le ministre de la Santé lance aujourd'hui un plan d'action pour mieux prendre en charge les patients atteints de symptômes persistants. Les fameux Covid longs, 1 million de personnes seraient concernées.
La ville de Jérusalem, le bon endroit pour trouver la paix, la main tendue du président ukrainien à la Russie. Volodymyr Zelensky a publié cette nuit une vidéo sur le réseau social Telegram.
Et il se dit prêt à négocier directement avec Vladimir Poutine des pourparlers entre Ukrainiens et Russes qui progressent même selon la Turquie, voisin de la mer Noire. Depuis le début de la guerre, Ankara joue les médiateurs.
Un pays qui accueille aussi des milliers de Russes.
Oui, des opposants, des artistes, des intellectuels qui fuient la répression politique et les sanctions économiques. Porte d'entrée du pays, c'est à Istanbul que débute pour beaucoup cet exil. Le reportage de notre correspondant Rémi Trio.
De chambre d'hôtel en auberge de jeunesse, Polina tente de retrouver ses esprits à Istanbul. Depuis 2 semaines, cette scénariste et metteuse en scène russe de 31 ans est en exil. Elle a écouté les conseils insistants de ses amis.
Ils m'ont dit, comme si j'étais une enfant, tu quittes la Russie, tu dois partir tout de suite.
À Moscou, cet activiste collait des affiches contre la guerre sur des bâtiments publics et des banques jusqu'à ce qu'on lui fasse comprendre qu'elle risquait de se faire arrêter.
J'ai reçu des menaces sur les réseaux, puis par téléphone.
Elle fait désormais partie d'un réseau de Russes récemment arrivés sur les rives du Bosphore. La Turquie leur est accessible sans visa, les liaisons aériennes ne sont pas coupées. Comme Polina, Constantine a trouvé refuge à Istanbul. Ce cadre dans une multinationale a quitté la Russie dans un avion plein d'exilés.
Il y avait tellement de professionnels, ils fuyaient le pays. Tout le monde avait l'air de se demander « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?»
Ni Constantine ni Polina n'envisagent de rentrer un jour en Russie. À Istanbul, Rémi Trio, Europe 1.
En Belgique, le conducteur de la voiture qui a foncé sur une foule hier était-il sous l'emprise de drogue? Les analystes seront connus ce matin. Le parquet écarte à ce stade la piste terroriste. Au moins 6 personnes ont été tuées et 26 blessées. Toutes participaient à un carnaval comme Fabrice Collignon, témoin du drame.
Tu t'imagines 100 personnes ici et une voiture qui arrive là. Et bam! Pulvérisé. Quand on voit des gens voler en l'air dans des films, on se dit que ce sont des effets spéciaux vachement bien faits. Non, ce ne sont pas des effets spéciaux. On a vu ça ce matin. Des gens retombés, inertes, des gens retombés, et puis quelques secondes après, du sang qui coule, de la tête, des jambes, du torse. On n'est pas prêt à voir ce genre d'image, d'autant plus que j'aurais dû y être. J'étais au milieu de la rue 1 minute avant, et un ami m'a appelé sur le côté du trottoir, et je me suis déplacé à droite, et en parlant avec lui, j'ai senti cette voiture arrivait, mais ça a duré 1 seconde. Ce qui veut dire que normalement, j'étais au milieu du chemin et j'aurais pas pu vous parler maintenant.
Le témoignage de Fabrice Collignon dans la foule du carnaval au micro de Maximilien Carlier, envoyé spécial en Belgique pour Europe 1.
Nous sommes dans un registre un peu plus léger le lundi 21 mars. C'est le printemps, mais c'est aussi la journée mondiale des marionnettes.
Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier.
Voilà, les marionnettes chantées par Christophe en 1966. Des petits pantins de bois qui ont même une capitale internationale. Alors non, rien à voir avec Lyon et l'histoire de Guignol. C'est à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, que tout a commencé. Dans la ville, l'école nationale supérieure forme chaque année 15 marionnettistes. Un savoir-faire exigeant pour que l'illusion soit parfaite. Le reportage de Guillaume Dominguez.
C'est derrière la façade d'une ancienne usine que se cache cette école hors du commun. Sur les murs, des marionnettes de bois, de chiffon, de plâtre ou de carton qui de temps en temps prennent vie entre les mains des étudiants.
Les marionnettes, c'est pour les...
C'est pour les fous, tout à fait, complètement, tout à fait.
Ici, on leur apprend tout sur la marionnette, de sa fabrication à sa mise en scène, précise Barbara Mélois, professeure d'art plastique.
On apprend le jeu d'acteur, la manipulation des marionnettes, la voix, la dramaturgie. On apprend aussi l'histoire du théâtre, l'histoire des arts de la marionnette, l'histoire des arts. C'est la croisée des arts, en fait.
3 ans d'études qui se traduisent par un double cursus, une licence d'art du spectacle et un diplôme d'acteur marionnettiste. De quoi multiplier les débouchés professionnels pour Gwenaëlle, étudiante en première année.
On peut être uniquement à la construction, on peut être à la mise en scène, avoir sa propre compagnie ou travailler pour d'autres compagnies. Il y a vraiment beaucoup de variété dans les possibilités qu'on a à la fin. C'était ça qui m'intéressait aussi pour venir ici.
Le prochain concours d'entrée est prévu pour l'été 2024 et l'école espère bien intégrer un tiers d'étudiants étrangers dans cette nouvelle promotion. Charleville-Mézières, Guillaume Dominguez, Europe
1. Charleville-Mézières qui accueille même un festival des marionnettes depuis 1961. Voilà l'occasion de découvrir la ville, d'aller à Charleville-Mézières. Voilà.
C'est très joli, Charleville-Mézières.
Écoute, je ne connais pas du tout, donc pourquoi pas.
Prochain festival donc en septembre 2023. Merci beaucoup Romain Oquet pour ce journal.
Il est 6h07, on passe au sport. Le journal des sports de Martin Lange, football et Marseille. Martin qui prend une option sur la deuxième place du championnat.
Oui, les Marseillais ont battu Nice hier soir dans un stade Vélodrome incandescent. Victoire 2-1 grâce à Milik et Bakambu. L'OM reprend la deuxième place, 1 point devant Rennes et 3 devant son adversaire du soir. Et les joueurs de Roré Sampaoli comptent bien la garder. Le milieu de terrain, Matteo Guendouzi.
Une soirée magnifique, je pense que des matchs comme ça, on aurait dû peut-être en gagner un peu plus cette saison, on aurait été beaucoup plus fiers. Au-delà des 3 points, on a montré de très belles choses et je pense que ce soir, on peut vraiment être très heureux de notre prestation.
Dans les autres matchs de la journée, Monaco a écrasé le PSG 3-0, Lyon incapable de battre Reims 0-0 et le carton du jour, il est pour Rennes qui a balayé Metz 6-1, des Messins qui, à l'instar de Bordeaux, se dirigent dangereusement vers la Ligue 2.
Direction Belgrade, Martin, pour les championnats du monde d'athlétisme.
Oui, avec un nouveau record du monde pour le prodige de la perche, Armand Duplantis, 6m20 hier pour le Suédois. Record du monde aussi pour la Vénézuélienne Roras au triple saut qui s'est envolée à 15m74. Côté français, déjà 2 médailles, les 2 sur le 60m haies. Hier, Pascal Martino Lagarde a pris l'argent chez les hommes et samedi, la surprise est venue de Sirena Samba Mayela, devenue la 4e française de l'histoire à remporter un titre mondial en salle. Jointe par Axel May, elle ne réalisait pas encore son exploit.
Championne du monde à 21 ans, c'est incroyable. J'ai passé le record de France également, donc franchement, c'est incroyable. Je peux juste vous dire actuellement que je suis dans un rêve. Là, je réalise pas encore, mais voilà, j'espère que ça va motiver plein d'autres personnes à travailler encore plus fort, surtout pour 2024.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
La fin de saison de sport d'hiver et des petits globes de cristal pour les Bleus. Tessa Worley s'adjuge celui du géant après sa 4e place hier à Méribel. En biathlon, la championne olympique Justine Brezaz prend, elle, celui de la Mastart après sa victoire hier en Norvège. Un mot de tennis avec la victoire surprise de l'américain Taylor Fritz cette nuit à Indian Wells. Il a battu Rafael Nadal en finale, une première défaite de l'Espagnol cette saison. Et puis de la Formule 1 pour finir avec le grand retour de la Scuderia. Doublé de Ferrari hier, Leclerc devant Sainz pour le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant. La partition.
Bruce Springsteen, Philadelphia, le film.
A tout de suite.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h et bientôt 12 minutes sur Europe 1. Les principaux titres de ce lundi, le journal permanent, Alban Le Prince.
En Ukraine, tout proche de la frontière russe, les autorités locales appellent les habitants de Novosselitsia à se mettre à l'abri. Ce matin, une usine chimique voisine est victime d'une fuite d'ammoniac. La cause de cet incident n'est pour le moment pas connue. À Mariupol, une école servant de refuge a été bombardée ce week-end, mais l'Ukraine ne capitulera pas. Le gouvernement ukrainien a balayé cette nuit l'ultimatum de la Russie demandant de déposer les armes. Et puis à 20 jours du premier tour de la présidentielle, la campagne bat son plein. Hier, Jean-Luc Mélenchon a appelé ses sympathisants à se rassembler place de la République à Paris pour former une union populaire. 100 000 personnes s'y sont rendues selon la France Insoumise.
Votre partition Omblin à présent, la bande originale d'un film emblématique et avant-gardiste, Philadelphia de Jonathan Demme, sorti en 1993.
L'une des premières productions hollywoodiennes grand public, Julien, qui porte un regard sur une crise sanitaire majeure à l'époque. Pour Jonathan Demme, qui vient de triompher avec Le silence des agneaux, Philadelphia n'est pas un film sur le sida, mais à propos du sida dans une Amérique puritaine. Un film sur les réalités d'une maladie qui sont l'isolement et la stigmatisation des personnes atteintes par ce fléau.
I wanna know, have you ever seen the rain? Philadelphia, c'est d'abord la performance du comédien Tom Hanks au sommet de son art.
Tom Hanks, méconnaissable après avoir perdu plus de 10 kilos, il joue le rôle d'un brillant avocat qui, faussement accusé de négligence, se fait licencier. Comprenez bien, Andrew Beckett se fait virer parce qu'il a le sida, parce qu'il est homosexuel. Il attaque ses associés, aidé par un ancien adversaire coriace incarné par Denzel Washington.
Et pour introduire son film et donner le ton, Jonathan Demme souhaite une chanson rock, un hymne à la Southern Man de Neil Young.
Il commande au chanteur canadien une démo en lui faisant parvenir les premières images. Lorsqu'il reçoit la cassette de Neil Young, une semaine plus tard, Jonathan Demme monte en voiture avec sa femme, c'est ce qu'il fait toujours pour découvrir un morceau dont dépend l'avenir d'un de ses films. Ce qu'il entend le bouleverse. Jusqu'aux larmes, Philadelphia de Neil Young sera une conclusion parfaite.
Mais il manque toujours la chanson qui ouvre le film.
Jonathan Demme tente sa chance alors avec Bruce Springsteen.
Au début des années 90, le boss traverse une mauvaise passe.
Il a quitté son groupe E Street Band et ses deux derniers albums solo sont ignorés par la presse et le public. Bruce Springsteen s'enferme dans son studio pendant toute une journée mais ne trouve pas l'inspiration. Comme pour Neil Young, le réalisateur lui envoie le début du film lorsque la caméra se déplace à travers Philadelphie. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt, I was unrecognizable to myself. Bruce Springsteen écrit les paroles et trouve surtout ce petit rythme de batterie qui va rendre le morceau iconique.
Même s'il n'est pas satisfait, il envoie quand même le résultat au réalisateur.
Oui, Jonathan Demme remonte dans sa voiture. C'est tellement beau, dit-il, mais ce n'est pas l'hymne. Et c'est alors qu'intervient sa femme, toujours à ses côtés. Elle lui répond : on dirait que les gens ont plus confiance en ton film qu'en toi. Veux-tu bien arrêter avec ton obsession pour Southern Man ? Quelle clairvoyance ! Streets of Philadelphia, indissociable du film, devient l'un des plus grands succès de Bruce Springsteen qui remporte l'Oscar de la meilleure chanson original le 21 mars 1994. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Meilleure chanson originale aux Oscars, aux Golden Globe, aux Grammy Awards, Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen. Dans le film Philadelphia, vous entendez également Peter Gabriel, Sade, et puis cette scène marquante, sublime, quand Tom Hanks traduit le désespoir de Maria Callas qui interprète la Mama Morta. Tom Hanks recevra 4 distinctions pour son rôle.
5h, 6h30, Europe Matin.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonne matinée, il est 6h17. C'est votre invité à présent, Julien, qui est économiste, consultant sur les questions d'agriculture et d'alimentation et auteur du blog nourrir-manger.fr.
Bonjour Bruno Parmentier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je tenais à ce que l'on vous entende ce matin parce que depuis le début de la guerre en Ukraine, vous alertez sur l'une des conséquences de ce conflit, conséquences dont on parle peu, alors qu'elle pourrait engendrer peut-être plus de victimes que les combats en eux-mêmes. Il s'agit d'une crise alimentaire mondiale, d'un ouragan de famine qui pourrait toucher de nombreux pays, selon le secrétaire général de l'ONU. Bruno Parmentier, expliquez-nous, comment se fait-il que des bombes larguées en Ukraine soient à même de plonger le système alimentaire mondial dans le noir ?
Écoutez, l'Ukraine est un grand pays agricole et surtout l'Ukraine est un très grand pays exportateur. Il faut comprendre que Par exemple, les pays qui produisent le plus de céréales ne les exportent pas. C'est la Chine et l'Inde, ils les mangent. Et donc, les pays qui sont capables de produire plus de céréales que ce qu'ils mangent, ben, parmi ceux-là, il y en a deux très importants qui sont la Russie et l'Ukraine.
Oui.
Ils produisent à peu près 15% du blé, mais c'est 40% des exportations. Mmh. Alors, je veux dire, il ne faut pas être spécialiste pour comprendre que ce n'est pas sûr qu'ils sèment leur blé cette année en Ukraine, et ce n'est pas sûr qu'ils le récoltent. Et en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, les exportations par le port de Mariupol, ça ne le fait pas.
Oui, des conséquences, il y en a et déjà. Donc, hein, le pain commence, par exemple, à manquer en Tunisie. Quels sont aujourd'hui les pays les plus dépendants des céréales ukrainiennes et russes? Ce sont les pays du Maghreb, principalement?
Alors, c'est d'abord les pays d'Afrique du Nord. Hein. Il faut se rendre compte que l'Égypte, par exemple, l'Égypte, c'est 105 millions d'habitants. Et c'est un désert traversé par juste une rivière. Il n'y a que 4% des terres cultivables. L'Égypte est le plus grand importateur mondial de blé année après année. S'il n'y a plus de blé de Russie et d'Ukraine, le blé du reste du monde, notamment le blé français, ne va pas suffire. Donc on va avoir faim en Égypte, mais aussi en Algérie, mais aussi au Maroc, mais aussi en Tunisie, au Yémen, au Liban, en Syrie, etc. Donc c'est d'abord ces pays-là. Parce que pour eux,
qui sont tous des pays
l'importation
pauvres,
hein. des céréales est très importante. Et s'il manque de céréales, ça ne va pas le faire.
Nous, en
et
France, déjà, Bruno Parmentier, on n'est pas concernés directement?
Ah ben, nous, on est un grand pays exportateur. Nous, soyons clairs, nous ne mangeons que le tiers de nos céréales. En fait, le blé chez nous, c'est un tiers pour nous, un tiers pour nos animaux, un tiers pour l'exportation. Donc, il n'y a pas de problème. Il y aura du pain dans les boulangeries. Bon, je veux dire, peut-être que la baguette va prendre 10 centimes, mais enfin, ce n'est pas dramatique du tout pour nous.
Concernant les pays qui vont manquer de céréales ukrainiennes et russes dans les semaines, voire les mois à venir, est-ce qu'il y a une réaction internationale, un plan en préparation, comme il y en a eu un, par exemple, pour le gaz russe? Est-ce que ça discute en ce moment pour voir comment on pourrait aider ces pays à se passer de ce blé ukrainien et russe?
Ben oui, évidemment, ça discute. Déjà, le G7 a fait une réunion spéciale là-dessus. Les Nations Unies s'agitent. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de stock. Les stocks mondiaux de céréales, il n'y en a plus beaucoup. C'est plus à la mode. Et puis, de toute façon, on a du mal à faire des années excédentaires. Donc, il reste grosso modo 4 à 5 mois de stock. Donc, quand un acteur majeur sur le marché est en défaillance, on peut pas. D'abord, ça affecte les autres céréales. Je veux dire, chez nous, c'est pareil. Si on n'a plus de nouilles, on passe au riz. Donc, le maïs est aussi très affecté parce que l'Ukraine est aussi un gros producteur de maïs, mais aussi les oléagineux. Et chez nous, par exemple, ceux qui sont les plus touchés, ce n'est pas les consommateurs, c'est d'abord les producteurs de cochons et de poulets.
D'autant qu'à cela,
le prix de l'alimentation va augmenter.
D'autant qu'à cela, Bruno Parmentier, s'ajoute, je crois, une récolte qui s'annonce très mauvaise du côté de la Chine, qui est le premier producteur mondial, mais qui a aussi la première population à nourrir, 1,5 milliard d'habitants, et la Chine va donc devoir importer du blé.
Voilà. La Chine, normalement, est à peu près autosuffisante, et c'est pas de chance, cette année. Il y a eu une très mauvaise récolte en Chine, donc la Chine va peser sur le marché et elle a les moyens d'acheter. Donc elle va en plus pomper sur les stocks du marché. Et c'est vrai que il faut se mettre en prière pour qu'il n'y ait pas d'incident climatique dans les zones céréalières cette année et que la récolte soit bonne, parce que ça dépend du temps, la récolte.
Vous le disiez,
il y a un autre facteur, c'est les engrais.
Vous le disiez, Bruno Parmentier, la récolte risque d'être très compliquée en Ukraine. On imagine que les bombes, les roquettes, mais aussi les chenilles des chars détruisent les terres agricoles. Quant aux agriculteurs, ils sont mobilisés pour les combats.
Absolument. Je veux dire, c'est évident que quand on fait la guerre, on ne fait pas de l'agriculture. Dans le temps, je veux dire, dans les guerres à l'ancienne, quand les hommes étaient à la guerre, les femmes se mettaient à l'agriculture. Mais là, les femmes et les enfants, elles font réfugiés. Donc, quand les hommes font la guerre et les femmes font réfugiés, il y a peu de gens pour monter sur les tracteurs.
Est-ce que c'est...
Et puis, il y a un autre facteur qui est très important, c'est les engrais. Les engrais, c'est très important pour le montant de la récolte. Or, malheureusement, aussi de ce point de vue-là, L'engrais essentiel qui est l'engrais azoté, il vient du gaz, et notamment du gaz russe. Et la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine sont des très gros exportateurs d'engrais. Mmh. Donc le prix de l'engrais est beaucoup plus fort que les autres années, ce qui fait qu'à travers la planète, il y a beaucoup de gens qui disent ben, « je vais diminuer beaucoup mes doses d'engrais cette année sur mes champs parce qu'ils coûtent trop cher ». Et mécaniquement, ça veut dire que ça fera une récolte plus faible. Donc, tous ces facteurs vont se conjuguer pour faire que, un...
Donc, c'est le scénario du pire, en fait. Vous êtes en train de nous dire que tous les facteurs sont négatifs sont alignés.
Oui, et que donc, on va avoir des émeutes de la faim dans beaucoup de pays. La situation, elle est pire que celle de 2007, où il y a eu des émeutes de la faim dans 36 pays, et pire que celle de 2010, où la pénurie générale a causé directement les révolutions arabes. Donc on est dans une situation très tendue.
Extrêmement inquiétante, effectivement. Merci beaucoup Bruno Parmentier d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je redonne le nom de votre blog où vous développez plein de sujets autour de l'agriculture et de l'alimentation. Ça s'appelle nourrir-manger.fr. Excellente journée et à bientôt sur Europe 1.
Merci, au revoir.
Vous restez avec nous la suite de votre matinale dans un instant avec Dimitri Pavlenko.